Le CIPCA, le salon de l'immobilier bas carbone sur Radio Immo et Radio Territoria.
Bienvenue sur les antennes de Radio Immo et Radio Territoria, ravi de vous retrouver ici au Grand Palais dans le 8e arrondissement à Paris qui accueille pendant 3 jours la 5e édition du CIPCA, le salon bas carbone. Et pendant ces 3 jours, nous recevons de nombreux invités ici même sur ce plateau et je suis ravi de recevoir Vincent Calbeau, bonjour.
Bonjour Jean-Baptiste.
Alors vous êtes architecte fondateur de Vincent Calbeau Architecture, l'un des défenseurs les plus visibles d'une architecture biologique, bioclimatique et régénérative. Ça vous présente bien ça ?
Ça nous représente très bien, ça représente l'esprit de l'agence qui est d'être force de proposition après cet été caniculaire qui a vu exploser, eh bien, hélas, le nombre de décès et l'apparition de ce qu'on appelle les réfugiés climatiques, c'est-à-dire des gens, notamment en Gironde, qui ont dû quitter leur territoire pour finalement échapper aux conséquences du réchauffement et des incendies.
Des incendies, ouais. Vous avez notamment, à l'occasion de cette journée, échangé sur la ville surchauffée, la ville résiliente aussi, ce sont des sujets qui vous parlent. Est-ce qu'en 2026, on n'est pas encore au stade de la prise de conscience ou est-ce qu'on sait désormais très précisément ce qu'il faut faire pour transformer nos villes ?
Je pense que le diagnostic, il est là depuis presque 20 ans, depuis la canicule de 2003. On a été sensibilisés, éduqués avec les discours d'Al Gore aux États-Unis, d'Arthur Bertrand en France.
On les a entendus, mais est-ce qu'on a vraiment pris en considération finalement ?
En tout cas, la théorie est là. Les rapports du GIEC font foi depuis maintenant plus de 20 ans. Et moi, je fais partie de cette génération, diplômée depuis juin de l'an 2000, où on sait très bien ce qu'il faut faire. Le problème, c'est passer de la théorie à la pratique. Et aujourd'hui, bonne nouvelle, on y arrive. On arrive à faire en sorte que la ville résiliente est une ville construite avec des architectures bioclimatiques et régénératives qui proposent non plus de construire contre le climat, mais avec le climat, avec la nature, avec les écosystèmes, c'est-à-dire une architecture qui prend soin du vivant et qui est dessinée, par exemple, en fonction de la course du soleil et de l'axe des vents dominants.
Et on va donner des exemples, parce que vous en avez à donner, c'est ce qui parle le plus, finalement, ça nous aide à nous projeter, mais peut-être juste avant, si on sait quoi faire aujourd'hui, parce que c'est ce que vous dites, qu'est-ce qui empêche, finalement, quelque part, et c'est l'un des thèmes de ce salon, de passer à l'échelle ?
Moi, mon métier aujourd'hui, en tant qu'architecte, c'est de prouver que la performance écologique des bâtiments que l'on construit rentre aujourd'hui en adéquation avec des performances économiques. On me pose souvent la question de savoir, mais est-ce qu'une architecture bioclimatique ne coûte pas plus cher ? J'aimerais qu'on me pose la question, que coûte une architecture qui n'est pas bioclimatique ? Que coûte une architecture qui surchauffe, dans laquelle on ne peut plus vivre 2 mois par an, dans laquelle on ne peut plus faire du télétravail pendant l'été ? Que coûte une architecture qui a mauvais impact sur notre santé ? Que coûte une architecture qui vient surchauffer la ville, les trottoirs, les espaces publics ? Eh bien, beaucoup plus cher. Et donc, il faut passer véritablement d'une économie linéaire à une économie circulaire qui fait en sorte que tout ce qui est produit et consommé soit recyclé en boucle vertueuse, sans créer de la dette, de la pollution et des déchets, mais bien en créant de la solidarité et en remettant le bon sens constructif, alliant le meilleur du low-tech qui existe depuis 2000 ans avec le meilleur du high-tech et des énergies renouvelables qui existent aujourd'hui.
Vous avez parlé tout à l'heure des incendies, des canicules à répétition. On parle évidemment de garantir le confort d'été. Comment est-ce qu'on arrive à le garantir, justement, ce confort d'été, sans pour autant aller à tout prix dans la climatisation, quoi.
La meilleure des climatisations, c'est une architecture bioclimatique qui fonctionne sans un seul kilowattheure. C'est un projet qui est capable d'éviter qu'il ne surchauffe pour devoir le refroidir. Alors ça se fait avec des murs épais qui ont une très bonne inertie, ça se fait avec des protections solaires, ça se fait avec des mouches à rabier inspirées par exemple de l'architecture orientale qui vient protéger le bâti. Ça se fait également en s'alliant avec la nature, avec la végétalisation. Ou ici, par exemple, on est au Grand Palais, on est entouré d'une architecture Art Nouveau splendide. Mais au début du XXe siècle, cet Art Nouveau, il disait que la nature était une infrastructure de décor, un décorum. Eh bien, aujourd'hui, c'est tout l'inverse. La nature devient une infrastructure de confort, une infrastructure de santé publique. Et finalement, le végétal est l'une des matières premières de nos architectures qui permet justement d'avoir aussi bien un confort d'hiver qu'un confort d'été à l'intérieur des habitations que l'on construit.
Alors vous parlez du Grand Palais, c'est vrai que c'est juste somptueux, c'est magnifique. Ça manque peut-être un peu de végétalisation pour faire baisser la température. Là.
Alors le Grand Palais, il faudrait peut-être créer un petit îlot de fraîcheur effectivement au milieu sous la coupole et il faudrait surtout prévoir des brises soleil extérieures pour éviter finalement que cette grande verrière ne vienne nous surchauffer comme elle le fait déjà actuellement aujourd'hui à midi.
Voilà, exactement. À Montpellier, on va parler de Montpellier, du programme Jardin Secret qui a été livré cette année. 113 logements, c'est ça, conçu avec patio, ventilation naturelle, loggia, végétation pour créer ces fameux îlots de fraîcheur. Qu'est-ce que ce projet démontre finalement concrètement de la possibilité qu'on a de construire dense tout en restant dans le confort d'été justement ?
Alors, le projet Jardin Secret est pour nous un projet laboratoire, mais qui aujourd'hui fait finalement la preuve de sa résilience par l'exemple. C'est un projet qu'on a livré en mars 2026, qui a traversé donc cet été caniculaire, et où on avait plus ou moins 10 degrés en moins à l'intérieur des appartements par rapport à la température extérieure. Pourquoi ? Parce que c'est une architecture bioclimatique qui a mis en place les 5 grands piliers finalement de la conception de nos projets. Tout d'abord, on s'est inspiré du quartier historique de l'Écusson, le quartier du centre-ville de Montpellier. Et on a recréé finalement ces rues, ces ruelles, ces patios dépressionnaires, ces toitures végétalisées, ces loggias qui sont derrière les façades. Et on est venu rapatrier cette conception historique sur ce projet contemporain. Ensuite, on s'est inspiré du meilleur du low-tech, c'est-à-dire des technologies qui ont été inventées depuis 2000 ans, qu'on retrouve par exemple dans les temples des pharaons avec de la ventilation naturelle, qu'on retrouve notamment dans l'architecture des riades, avec ses grands patios centraux, avec ses façades en moucharabier. Et bien ici, on a fait un moucharabier contemporain qui est constitué de façades en vagues horizontales et verticales, finement biseautées, qui permettent d'avoir une double peau dépressionnaire, c'est-à-dire de jouer avec les courants aéroliques, le vent, pour faire en sorte qu'il crée de mini-turbulences dans l'entre-deux de cette double façade pour créer une zone naturellement rafraîchie. Également, ce moucharabier, il évite que la structure porteuse du bâtiment ne surchauffe. Et ensuite, on a utilisé, comme je l'ai dit, la végétation comme infrastructure de santé, où ici, on a une végétalisation endémique, donc propre à la ville de Montpellier, méditerranéenne. Et la spécificité de ce projet, c'est qu'il vient recycler l'eau des douches que les habitants prennent tous les matins. C'est-à-dire que cette eau, qui est finalement très peu polluée, on a une noix de savon dans 30 ou 50 litres d'eau, elle passe dans un filtre avec une pompe osmotique et une fois filtrée, elle est directement réinjectée soit dans les sanitaires pour ne plus utiliser de l'eau potable dans nos toilettes et elle est réinjectée dans le système d'irrigation au goutte à goutte de l'ensemble du jardin central qui est un grand îlot de fraîcheur planté en pleine terre et non pas sur une dalle de parking et ça vient également arroser tous les balcons et les toitures qui ensuite sont solarisés pour produire une partie de l'énergie du bâtiment, bâtiment qui est lui-même raccordé à une centrale biomasse, donc une centrale d'énergie renouvelable pour être chauffée en hiver.
Vincent, est-ce qu'on sait à partir de quand finalement la végétalisation des bâtiments va produire un effet vraiment réel et concret sur la température, la biodiversité et aussi le confort des habitants ?
La végétalisation, elle ne fonctionne que si elle est pensée selon la règle de la triple trame. La trame verte, oui, donc qui s'occupe de la végétalisation, la trame bleue, qui s'occupe justement de la récupération des eaux de pluie et le recyclage des eaux grises, et la trame brune, c'est-à-dire sur la qualité des sols, étant donné qu'on veut rendre nos projets les plus perméables possible pour faire en sorte que les eaux de pluie aillent directement vers les nappes phréatiques et qu'on puisse planter un maximum d'arbres matures en pleine terre, dans les cœurs d'îlots et autour des bâtiments. S'il manque une de ces trames dans la trilogie, on ne peut pas avoir une végétalisation pérenne dont on va profiter de l'évapotranspiration pour se rafraîchir et dont on va profiter de la photosynthèse pour venir finalement capter les particules de CO2 et les transformer en oxygène, donc purifier l'air. Il faut absolument que la terre, l'eau et le végétal soient pensés en même temps. Donc, pour ce faire, on travaille directement avec des équipes spécialisées qui sont intégrées dans notre cabinet d'architecture, avec des biologistes, avec des climatologues, avec des spécialistes en eau qui, aujourd'hui, développent des méthodes peu coûteuses pour venir recycler notamment les eaux grises.
Des méthodes peu coûteuses, c'est-à-dire ?
C'est-à-dire des méthodes où on a besoin d'un local technique de 20 à 60 mètres carrés avec des pompes qui coûtent plus ou moins entre 10 et 20 000 euros. Mais donc dans le cadre d'un éco-quartier qui vient partager finalement les ressources qu'il crée, c'est un prix tout à fait raisonnable qui peut être absorbé très vite.
Est-ce qu'on peut vraiment finalement adapter massivement le parc existant aux canicules sans repartir complètement de zéro, c'est-à-dire en détruisant tout et en reconstruisant quoi ?
Alors le meilleur bâtiment qui existe, c'est le bâtiment qu'on ne détruit pas. Pourquoi ? Parce que dans un bâtiment patrimonial qu'on a reçu en héritage, il y a déjà une très forte quantité de carbone intrinsèque, c'est-à-dire du carbone qui appartient à la matière déjà construite. Donc nous, aujourd'hui, par exemple, on rénove les anciens thermes nationaux d'Aix-les-Bains. C'est un bâtiment de 35 000 m² qui est fabuleux parce qu'il raconte toute l'histoire thermale de la ville, depuis les thermes romains qui datent de 200 ans avant Jésus-Christ, en passant par une architecture néoclassique, une architecture art déco, art nouveau, une architecture
moderne. Très belle histoire derrière tout ça.
Et nous, l'histoire, c'est qu'on a voulu, finalement, dès le début, travailler avec les architectes du patrimoine, avec les directions régionales des affaires culturelles, pour travailler main dans la main et garder le meilleur de chaque époque pour construire notre avenir. On a aussi développé ce projet par démocratie participative, c'est-à-dire que le maire Renaud Beretti à Aix-les-Bains nous a demandé de présenter plusieurs fois notre projet à l'ensemble de la population et on a reçu 65% des votes pour ce projet vertueux plutôt qu'un autre pendant le processus de sélection après le rendu du concours. Ça veut dire que finalement aujourd'hui, eh bien, le destin il est dans les mains du citoyen. Ils peuvent aujourd'hui choisir le projet le plus vertueux, le projet le plus bas carbone, le projet le plus végétalisé, le projet qui va faire venir rebattre le cœur de leur centre-ville historique. Et finalement, c'est un projet qui est très emblématique de notre époque parce qu'il veut lutter contre l'étalement urbain à l'horizontale. Oui. Nous, c'est vrai que...
Vous êtes pour le vertical, vous. Voilà.
On n'est pas pour le vertical, on est pour une densité raisonnée. Pourquoi ? Parce que moi, par exemple, je viens d'une ville en Belgique qui a beaucoup souffert parce que le centre-ville historique s'est complètement vidé de sa substance, de ses commerces. Et on a des grandes boîtes à chaussures qui se sont installées autour des ronds-points à l'entrée de ville en proposant des immenses parkings. Eh bien, nous, on veut renverser la vapeur. On veut mettre en place la ville du quart d'heure. Une ville où on n'a plus besoin de voitures. Une ville où on vit dans des appartements qui ont des jardins privatifs suspendus dans le ciel. Où finalement, on prend le meilleur de notre appartement en ville proche des services, proche de la culture et le meilleur de notre maison à la campagne avec jardin privatif, deux en un. Ça veut dire qu'on n'a plus besoin de résidence secondaire. On vit bien dans les centres-villes, on se déplace à pied, en vélo, on est proche des commerces, on est proche des artisans et on vient faire rebattre le cœur des très belles villes françaises.
Donc la densité verticale, quelque part, est un côté peut-être plus écologique que l'étalement, quoi.
Voilà, une densité raisonnée qui vient rapatrier la nature au cœur de la cité.
Qu'est-ce que vous attendez, vous, de ce salon, très concrètement ? C'est quoi l'objectif pour vous d'être présent sur un tel événement ?
Nous, le but, c'est de montrer que derrière les constats anxiogènes, derrière cette éco-anxiété qui se transforme en éco-lucidité, il y a des milliers de solutions à toute échelle que l'on peut mettre en œuvre tout de suite en répondant au prix du marché, en traversant les crises sanitaires, en traversant les guerres, en traversant l'inflation des prix de matériaux, en supportant l'augmentation des taux d'intérêt et en disant à tout le monde, ceux qui cherchent des logements vertueux et ceux qui les construisent, qu'aujourd'hui on peut construire mieux avec moins sur notre petite planète bleue, au territoire fini et aux ressources limitées.
Allez, une dernière question et puis je vais vous redonner votre liberté, entre guillemets, et vous remercier évidemment d'avoir répondu gentiment à notre invitation. Mais si on se retrouvait ici, tiens, par exemple, en 2036, voilà, il se sera donc passé 10 ans, quel changement très concret vous aimeriez voir devenu banal dans toutes les opérations immobilières françaises ?
Alors, pour la petite histoire, moi, quand j'ai commencé l'architecture il y a 20 ans, on m'a toujours pris un peu pour un professeur tournesol. On m'a dit, toi, tu ferais mieux de faire de la bande dessinée ou des utopies architecturales, mais tu ne vas jamais rien construire. Et finalement, mes dessins prospectifs, ils ont trouvé un écho avec le premier client qui m'a permis de construire une tour végétalisée à Taipei. Après, avec un deuxième client qui m'a permis de construire le musée de la mobilité à Dubaï. Après, avec un troisième client qui m'a permis de construire un bâtiment au Brésil. Et finalement, on se rend compte que tout ce qui nous semblait complètement fou hier est en train de devenir le bon sens d'aujourd'hui. Et moi, j'aime finalement ce métier d'architecte qui nous permet de travailler à deux vitesses. Tout d'abord, on a un laboratoire de recherche et de développement qui nous permet de développer les solutions qui seront viables économiquement dans 10 ans. Mais aujourd'hui, on peut déjà construire avec les technologies qu'on a proposées en 2015-2016. Et donc aujourd'hui, voilà, on arrive à construire des bâtiments qui produisent leur propre énergie grâce aux énergies renouvelables, qui recyclent leurs déchets en ressources et des bâtiments qui sont également hyper flexible pour pouvoir finalement suivre l'évolution de votre cellule familiale, transformer une chambre en bureau ou transformer un immeuble d'habitation en bureau sans faire de gros travaux. Pour nous, la réversibilité, c'est synonyme de durabilité. Et aussi, dans un monde où on parle beaucoup de bas carbone, de préfabrication, hors site, et où parfois on a l'impression que l'architecture se standardise un petit peu, où le vocabulaire des architectes se réduit de quelques pages, on aime dire aussi, dans un bâtiment aussi beau, art nouveau qu'est le Grand Palais, que la beauté architecturale est le premier pilier de la durabilité. Un bâtiment haussmannien à Paris qui n'est pas parfait d'un point de vue acoustique, qui n'est pas parfait d'un point de vue thermique, on l'aime tellement qu'on va le transformer durant toute sa vie pour faire en sorte de vivre dans un cadre de vie très agréable.
En condition qu'on nous autorise à faire les travaux.
Mais ça, aujourd'hui, on nous autorise. Il faut travailler main dans la main avec les architectes du patrimoine, avec les DRAC, pour faire en sorte que tout ce patrimoine qu'on aime tant, il puisse nous accompagner à travers le 21e siècle. Et aujourd'hui, c'est tout simplement en train de devenir une réalité.
Oui, je retiens que dans cette interview, vous avez dit que nous étions passés d'une éco-anxiété à une éco-lucidité. J'aime bien les termes. Vous en êtes convaincu ?
Je suis convaincu que cette écolucidité nous amène aujourd'hui, et c'est le but du SIPCA, à l'éco-action.
Ok, très bien. Merci beaucoup, Vincent.
Merci beaucoup à vous.
Merci d'avoir gentiment répondu à mes questions. Merci également à vous de votre fidélité. Vous allez pouvoir retrouver dans quelques instants cette émission en intégralité, en replay, sur les applications de Radio Immo et Radio Territoria, sur le site internet également. Nous, on va faire une petite pause. Voilà, une petite pause méritée, déjeuner. Et on se retrouve dès 14h tout à l'heure sur les antennes de Radio Immo et Radio Territoria pour continuer à vous faire vivre cette 5e édition du Salon Bas Carbone, le SIPCA, ici au Grand Palais à Paris. À tout à l'heure. Ciao.
Le SIPCA, le salon de l'immobilier bas carbone sur Radio Immo et Radio Territoria.